raciste avec une grosse paire de couilles et un cul de poil serré.
Alors, première leçon, quand on est flic, on se méfie de tout le monde, tout le temps. C'est la seule façon de faire correctement son boulot et de rester en vie.
À tous, on reste en position. Est-ce qu'on veut, c'est un flag, le boss et le fric. On bouge pas.
Nous avons enlevé un de nos collègues. S'ils récupèrent la drogue, ils vont pas s'embarrasser d'un flic.
Un flingue, des menottes, un brassard orange fluo autour du bras sur lequel se dessine le mot « police ». Nous y sommes, là, juste derrière ces femmes et ces hommes courant après les méchants sur nos écrans. Nous, c'est-à-dire vous et moi, nous qui aimons tant les séries policières avec son lot de flics, le flic héros bienveillant, mais aussi les flics anti-héros qui n'hésitent pas à franchir la ligne rouge. Peut-être parce qu'ils nous ressemblent, des gens en prise avec la réalité comme vous et moi au fond.
On rentre le soir chez nous, comme des cons, tout seul. On regarde des séries, et la télé, ça mène nulle part.
Si, parfois ça mène quelque part de regarder des fictions, quoi qu'en pense le lieutenant Gilles Escoffier. Car à bien y regarder, c'est grâce à lui et à ses coéquipiers de la série Engrenage, dont j'ai savouré les 8 saisons, que j'ai découvert un peu plus et un peu mieux le métier de flic. Avec lui, avec la capitaine Lorberto, le commissaire Herville et les autres, leurs missions sont devenues miennes. J'ai eu comme des envies de chouffer devant une planque, de monter dans un soum pour surveiller un dealer, de poursuivre à moto des assassins. Des flics dans l'action, loin de Navarro et Julie Lescaut, commissaire un peu pépère des années 90. Alors à quoi ressemble le portrait robot du flic dans les séries françaises aujourd'hui? Comment ces fictions sont devenues des miroirs de notre quotidien où on n'hésite plus à parler bavure, violence et flashball?
Ouais, je dis flashball les gars, bah, j'ai toujours dit flashball, je dis flashball, voilà, c'est comme ça.
Attendez patron, il nous tire dessus au mortier.
S'il nous allume, on répond, faut pas déconner non plus.
Oh, oh, oh les gars, vous êtes où là? Oh, c'est un gars à nous qui a tué un jeune, on va pas jouer les cow-boys.
Bienvenue dans Sériland. Sériland, c'est le podcast qui vous raconte les séries par celles et ceux qui les aiment et les font. À partir d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous deux fois par semaine avec mon équipe et des invités prestigieux. Et comme c'est le premier épisode, je vous propose qu'on fasse connaissance. Moi, c'est Eva, je suis journaliste, une enfant de la télé, née le siècle dernier.
Ou alors, faut quand même vous dire que Eva Rock est sortie de la maternité la même année que Kojak, Star Trek et Les Feux de l'Amour.
C'est exactement ça. Après m'être gavée de dessins animés, mon adolescence télévisuelle prend des allures de soap-opéra entre Dallas et Santa Barbara. Depuis plus de 20 ans, mon métier, c'est de passer des heures devant l'écran à tout regarder, documentaires, fiction, divertissement. Et puis un jour de 2001, je tombe. Je deviens accro, je vis, je respire au rythme des aventures de la famille Fisher, un clan à la tête d'une entreprise de pompes funèbres à Los Angeles. Six Feet Under venait tout à coup de révolutionner ma vision des séries. Du génie dans l'écriture, une magie dans la construction des épisodes, des rebondissements, le mot cliffhanger apparaissait à peine dans mon vocabulaire, et un ancrage dans le réel fascinant. Il a fallu du temps avant que les séries deviennent un sujet d'étude et qu'elles méritent attention et estime, avant qu'on ne loue David Lynch, Game of Thrones et Netflix. Et voilà comment je débarque aujourd'hui dans vos oreilles, avec mon équipe. Au gré des épisodes, vous entendrez les voix de Margot Barallon, née la même année que Twin Peaks et Edouard et ses filles, dont plus personne ne se souvient. Bertrand Chameroy, qui a vu le jour alors qu'apparaissait sur nos écrans Alerte à Malibu et Navarro. Clément Le Saffre, dont le premier biberon fut postérieur à Une nounou d'enfer et X-Files. Et Clémence Olivier, qui de ses yeux de bébé a peut-être aperçu les premières images de Tribunal ou Rosanne. Au gré de ce podcast, vous entendrez aussi une voix. Elle s'immisce pour vous apporter une précision ou vous alerter d'un éventuel spoil. Pour la petite histoire, sachez que cette voix grave, c'est celle de Patrick Mancini, la voix française de Dexter, incarnée par Michael C. Hall. Ensemble, nous allons plonger dans l'univers passionnant des séries, en compagnie de celles et de ceux qui fabriquent ces fictions que nous aimons tant, scénaristes, réalisatrices, comédiens, techniciennes, producteurs, mais aussi auteurs, sociologues, psychologues. Pour évoquer l'image du flic dans les séries françaises, je suis partie à la rencontre de Marine Francou, directrice d'écriture d'Engrenage diffusée sur Canal+, et Franck Tilliez, auteur de Polar et créateur d'Alex Hugo, à voir sur France 2. Nous avons parlé hyper-réalisme, indique, justice et violence policière. Nous avons parlé de notre société. Sériland, épisode 1, portrait robot des flics dans les séries françaises. Et pour commencer, je voulais savoir qui étaient les flics de référence pour Franck Tilliez et Marine Francou.
Certainement McNulty dans The Wire. The Wire, c'est quand même pour moi la série policière d'anthologie qui tient le haut du panier.
À date. Série américaine de la fin des années 90.
Voilà.
Ça mérite quand même une petite précision.
The Wire, série américaine de 5 saisons, diffusée à partir de 2002. Direction Baltimore pour une série quasi-documentaire retraçant une vaste enquête sur un trafic de drogue. Et pour la petite histoire, sachez que parmi les fans de The Wire, il y a un certain Barack Obama.
Merci, c'est plus clair.
C'est vrai que McNulty est une figure d'anti-héros assez proche d'ailleurs finalement des héros d'engrenage, parce qu'il y a aussi cette idée qu'on va vraiment montrer le travail des flics avant tout. Et ensuite creuser un personnage, enfin faire ces deux choses en parallèle, mais c'est aussi une série très précise sur ce que ça raconte, les obstacles de la procédure, du manque de moyens. Il y a finalement un certain nombre de points communs.
Avec Engrenage.
Mais voilà, c'est The Wire.
Un souci du réalisme dont nous allons parler évidemment tout au long de ce podcast. Franck Tilliez, c'est qui pour vous le flic de référence?
Je dirais que celui qui m'a le plus marqué, en tout cas qui a marqué une rupture par rapport aux séries plus anciennes, ça a été Vic McKay de The Shield.
Oui.
Une série américaine.
Pareil, fin des années 90.
Oui, c'est ça. Et c'était stupéfiant parce que, bon, moi, je regardais les séries françaises, Julie Lescaut, tout ça. Je prenais du plaisir à les regarder. Puis là, d'un seul coup, on a une première image de la série. On a un flic qui en abat un autre d'une balle dans la tête. Et on se dit, waouh! Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas affaire à des personnages qui sont complètement lissés. On a affaire à la vraie humanité. C'est-à-dire, ce personnage, on se dit, mais on va le détester, forcément. Et on se dit, mais comment il peut être le héros d'une série? Et on se rend compte finalement que c'est un personnage qu'on arrive à aimer malgré tous ses travers, malgré cette part très sombre qu'il y a au fond de lui. Et donc, ça, c'est la vraie humanité. C'est comme ça qu'on est et que sont les gens. Et donc, on accroche ce personnage malgré cette face très, très sombre.
Alors, c'est très étonnant parce qu'on s'était pas mis d'accord. Vous ne saviez pas que j'allais vous demander ça. Mais c'est vrai que The Wire et The Shield, c'est vraiment les séries policières qui ont marqué l'histoire des séries. En l'occurrence, l'image du flic qui peut flirter aussi avec les voyous, ce qu'on retrouve notamment dans Engrenage. Quelqu'un a dit Engrenage, c'est une tranche d'histoire de la fabrication des séries en France. Elle est arrivée avec quelque chose d'assez révolutionnaire dès la première saison, marquant le début d'autres révolutions qui se sont succédées. À mon sens, c'est unique. Est-ce que vous savez qui a dit ça? C'est une personne qui est présente dans ce studio, donc ça va pas être difficile. C'est vous, Marine Franco, qui avez dit ça dans une interview pour Canal+. Qu'est-ce qui est révolutionnaire dans Engrenage?
C'est sûr que moi, je me souviens, c'est quand même une des premières séries françaises qui m'a fait faire mes premières nuits blanches, où vraiment j'étais...
En tant que spectatrice?
En tant que spectatrice, bien sûr. Moi, je suis restée spectatrice d'Engrenage jusqu'à... Enfin, je suis rentrée à la saison 6 pour faire un épisode, donc ça fait plusieurs années de spectatrice. Et c'est vrai que quand ça a débarqué, il y avait cette idée déjà très forte de montrer les flics au travail, mais aussi de ne pas avoir peur de montrer ce qu'ils voient eux, c'est-à-dire la noirceur du monde telle qu'elle est. Et ça, c'était très fort. C'est même un parti pris avec lequel moi, j'ai pas toujours été très, très à l'aise, mais je reconnais qu'il y avait une sorte de coup de poing très fort à ce moment-là.
Ça pourquoi déboulait. Pas à l'aise? Parce que vous pensiez que...
Non,
les...
mais parce que au bout d'un moment, je trouvais qu'il ne fallait pas faire du noir pour le noir. Quoi. Et je n'avais pas tellement envie d'une surenchère de ça. Et voilà, il peut y avoir un petit peu de ça. Par exemple, sur le cadavre de la saison 1, avec ses seins coupés, tout ça, il y avait un côté... Bon, on va vous montrer la boucherie. Bon, voilà, tout ça a évolué. C'est ça aussi qui est passionnant, c'est que c'est 15 ans d'histoire. Donc... il faut probablement un coup de poing très fort au début pour ensuite évoluer. Et puis, ce qui est assez unique dans cette série, c'est qu'elle s'est écrite de plein de manières et que finalement, les seuls qui sont restés du début jusqu'à la fin, ce sont les acteurs.
Et les personnages.
Et les personnages.
Exactement. Franck Tilliez, vous partagez cette idée que Engrenage a marqué une rupture dans les séries
françaises? Oui, mais d'ailleurs, je presque plus citer celle-là en tant que série référente dans les séries policières. Il y a vraiment une rupture, c'est-à-dire que on est dans le réalisme. C'est vraiment le travail d'un groupe d'enquête criminelle. Les séries précédentes, il y avait un personnage qui faisait un peu tout, c'est-à-dire le commissaire qui va faire les analyses de scènes de crime. Il y a toujours la mule derrière qui ramène les infos. On savait jamais, on l'appelait la mule parce qu'elle avait toujours la bonne info, mais on savait pas trop comment elle l'obtenait. Et là, on est dans un groupe crime. On parlait de la scène d'ouverture qui sont assez dures dans Engrenage, en tout cas dans les premières saisons, mais qui sont la réalité. C'est-à-dire que le travail des flics, c'est ça. Moi, je les côtoie aussi pour mes romans et ils vous montrent les photos. C'est exactement ça. Et ce qui était vraiment aussi très, très intéressant, et ça, c'est aussi une des prouesses d'Engrenage, c'est de mêler la justice et la police. C'est la police judiciaire. On avait des séries auparavant où soit elles étaient complètement policières et puis la justice, on laissait un peu de côté, ou des séries judiciaire, boulevard du Palais, où on s'occupait plus
à
justice.
On voyait rarement les interactions.
Et là, on voit les interactions. Deux. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'on se dit, mais c'est comme ça que ça marche. On ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Et là, on comprend bien toute la mécanique, l'importance des uns et des autres dans les enquêtes criminelles. Et pourquoi parfois c'est très long, pourquoi parfois ça peut aller plus vite. Donc, on comprend toute cette mécanique-là. Et ça, c'est vraiment passionnant.
Est-ce que vous pensez que le public exige ce réalisme aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une série policière où on ne parle pas de bavures, de violences et de thèmes d'actualité ? Est-ce que c'est envisageable ? Parce que même dans Alex Hugo, il y a une forme de réalisme aussi.
Oui, alors j'aurais tendance à dire que c'est ce que cherchent les gens à la fois dans les séries, dans la littérature, c'est-à-dire une description de notre société. Elle ne passe pas toujours par la réalité policière. C'est là où on a une petite différence entre Alex Hugo et Engrenage. C'est-à-dire qu'Alex Hugo, en fait, on prend quelques petits raccourcis dans les procédures. Hein. Moi, je les connais bien. Mais bon, Alex Hugo, c'est un policier rural. Il y a des crimes qui se passent. Et il enquête un peu, alors que normalement, ce n'est pas vraiment son service. Mais parce que ce n'est pas vraiment là le propos de la série. Le propos de la série, c'est de travailler sur les travers de l'humain en lui-même, et des sujets de société qui se passent dans les montagnes, parce que la montagne est un personnage. Que ce soit autour des migrants, du droit à la rédemption. Donc, c'est des grands thèmes de société qu'on trouve toujours beaucoup aujourd'hui, l'écologie. Mais on laisse un peu de côté le réalisme, parce qu'en fait, c'est la couleur de la série. Et ça, les spectateurs l'acceptent. À partir du moment où ils regardent un premier épisode ou un deuxième, ils comprennent bien vers quoi on veut axer la série. Et après, ils sont prêts à accepter ce qu'on leur raconte, pour peu que ce soit bien fait, en fait.
Que dans Engrenage, on a besoin de ce réalisme absolu que vous avez travaillé depuis les premiers épisodes.
Oui, après on triche aussi, hein. Oui. C'est-à-dire que par exemple en saison 7, une intrigue sur le blanchiment d'argent qui part d'un trafic de stupéfiants pour remonter au grand mouvement international de l'argent, ça ne se traite pas le temps de la saison, c'est un mois.
Oui.
C'est plutôt 3 ans d'enquête, je pense, dans la réalité. Donc, on triche malgré tout. Mais c'est vrai que tu disais, la montagne est un personnage. Dans Engrenage, c'est la procédure qui est un personnage. C'est-à-dire que beaucoup de rebondissements viennent de là, d'obstacles qui viennent du juge d'instruction, qui dit, ben non, ça, on ne peut pas le faire. Et du coup, les dilemmes des flics, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas ?
Mais alors, j'imagine que pour tout ça, vous avez aussi vos tontons, vous avez aussi vos informateurs.
Bien sûr qu'on a nos tontons.
Et donc pour Sériland, vous êtes obligé de nous dire qui sont vos tontons. Je sais qu'on d'un moment ne dévoile pas nos sources, mais vous allez bien nous expliquer comment vous fonctionnez. Typiquement sur le blanchiment d'argent que vous évoquez dans la saison 7, on imagine que vous êtes entouré quand même d'une armada de gens qui vous expliquent tous ces mécanismes.
Bien sûr, alors une armada, non, pas tout à fait, mais... C'est vrai que historiquement, moi, c'est une des choses qui m'attirait beaucoup sur Engrenage, c'est que la production a très tôt compris que pour avoir du réalisme, il allait falloir s'entourer de policiers et le faire bien, c'est-à-dire c'est vraiment des partenaires de l'écriture qu'on peut solliciter, qui sont rémunérés. Enfin, c'est pas juste des gens avec qui on va boire
bien sûr.
Café pour leur soutirer 2-3 informations. Ils font partie du dispositif d'écriture. Sur la saison 7, par exemple, il y avait déjà 2 consultants policiers. Quand on a commencé avec l'équipe d'écriture à leur dire, voilà, on voudrait parler de ça, ils nous ont dit, ça, nous, ce n'est pas notre domaine. Mais parce que c'est Engrenage, parce que c'est finalement le monde de la police, c'est un tout petit monde, ils se connaissent tous, ils nous ont trouvé tout de suite la personne qu'il nous fallait. Voilà, donc je ne peux pas révéler l'identité, non. Parce que même s'il le fait en clarté vis-à-vis de sa hiérarchie, je ne suis pas certaine qu'il voudrait qu'on dise son nom, mais qui a été d'une grande générosité parce qu'il nous a raconté ses enquêtes. Alors après, on triche, on mêle plusieurs enquêtes, en aucun cas on reprend un dossier complet pour l'utiliser tel que, mais malgré tout, par exemple, dans la saison 7, tout le volet chinois, au départ, on ne l'avait pas du tout trouvé dans nos recherches à nous, sur Internet et tout ça. Et là, il nous a dit, c'est assez impératif si vous voulez parler du blanchiment aujourd'hui. Et nous, ça nous a passionnés. On n'avait jamais traité de cette délinquance-là dans Grenage. Donc, allez hop, on est allé à Aubervilliers. Et ça nous fait gagner, évidemment, un temps énorme, ces consultants. C'est donc pour cette matière et aussi pour la matière humaine, en fait. Parce que c'est nous, on n'est pas policiers.
Oui, c'est ça, c'est qu'il vous indique aussi la nature des relations. On voit la guerre des polices, j'imagine qu'il vous donne aussi des éléments sur comment ça se passe entre
eux. Oui, les rapports avec les autorités, le préfet, les magistrats, et puis humainement aussi entre eux. Et puis même au bout d'un moment, à force de se connaître et de se côtoyer, il y a des choses qui ressortent qui sont plus de l'ordre un peu de l'indicible, mais qui est leur humanité, en fait, leur manière à eux de voir les désordres de notre monde. Et ça, c'est passionnant aussi parce que finalement, on a l'occasion de rencontrer des gens qui ne pensent pas forcément exactement comme nous, mais qui nous enrichissent. Et j'espère que l'inverse est vrai aussi. Quoi.
Qui est votre tonton, Franck Tillez? Et pour vos romans qui sont hyper réalistes, au point que parfois, quand même, vous devancez la réalité, parce que je me souviens de Pandemia.
Oui.
Dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, parce qu'évidemment, il est ressorti et ça redevient un succès aussi de librairie, parce que vous aviez pressenti ces histoires de virus.
Oui.
Mais donc, à la fois pour vos romans et pour Alex Hugo, qui sont vos informateurs?
C'est des gens que j'ai connus au fil des années. Je crois que ce qui est important dans ces relations-là, c'est la confiance, parce que ce sont des métiers sensibles, ils travaillent sur des enquêtes. Mais que ce soit aussi dans les chercheurs, parce que pour Pandemia, c'était des chercheurs à l'Institut Pasteur qui manipulent quand même des microbes. Et donc, il y a cette confiance qui est essentielle. Je dirais que le deuxième aspect, c'est qu'ils ont envie qu'on parle bien de leur métier, de ce qu'ils font réellement. Ils ont peut-être eu assez, à un moment donné, de voir les séries où on avait soit des super flics ou des flics carrément à côté de la plaque. Ils se sont dit, mais c'est une question de confiance. Je crois qu'Engrenage, par exemple, c'est une marque de... Pour eux, c'est une marque de fabrique. Moi, je connais des policiers qui ont vu Engrenage qui disent, mais cette série, elle est géniale parce que c'est exactement ce qu'on fait dans la vraie vie. Ils acceptent les tests ADN qu'on a en 24 heures. Au lieu de... Alors, des fois, il faut 3-4 jours. Ils acceptent vraiment volontiers. Ils disent même que c'est ce qu'on aimerait dans la vraie vie. Et pour en revenir à la question, moi, mes tontons, c'est des gens d'un groupe criminel de la PJ parisienne, c'est un médecin légiste, c'est des gens de la police scientifique qui me disent « on te dit ça, mais ça, tu peux le dire, ça, tu peux pas le dire, garde-le pour toi, mais c'est pour ton information personnelle. » Il y a un point commun aussi chez les personnes à qui on s'adresse, c'est qu'elles ont envie de raconter leur métier. Elles ont vraiment... on sent que ce sont des métiers difficiles. Des gens qui emmagasinent vraiment au fond d'eux beaucoup de choses. Et quand ils se mettent à parler, ça y est, ils lâchent vraiment tout. Et parfois, ça donne des anecdotes quand même vraiment surprenantes. Mais on les garde pour soi parce que la personne se livre et on sent que, voilà, qu'elle n'a pas envie de partager avec d'autres. Donc voilà, mais peut-être un jour, ça ressortira.
J'allais vous dire,
dans des histoires.
Allez-y, racontez-nous. Mais bon, d'accord, je ne ferai pas ma flic. Avant de vous faire écouter la suite de notre discussion et de vous dévoiler ce que Marine Francou pense des Gilets jaunes, je vous propose un interlude un peu particulier.
Mais vous, là, vous aimez bien vous vanter de tout savoir sur les séries. Alors écoutez bien ce qui va suivre.
Je vais moi aussi vous parler d'une série avec des flics et avec des criminels, sauf qu'eux sont déjà derrière les barreaux.
Clémence Olivier, agent coulisses de Sériland.
Je vous emmène dans la prison américaine d'Oswald. C'est ici que se situe l'intrigue de la toute première série de la chaîne américaine HBO. On est en 97, juste avant Sex and the City et près de 15 ans avant Game of Thrones. Cette série, c'est Oz.
Oz. C'est le surnom du pénitencier Oswald, le pire des pénitenciers, maximum sécurité. Oz est rétro. Oz est une humiliation. Vous voulez punir un type, vous le séparez de sa famille, vous le séparez de lui-même, vous le bouclez avec ses semblables.
La bande originale de Oz n'est vraiment pas comme les autres. Elle a été composée à base d'objets que l'on pouvait trouver en prison. Des portes qui claquent. Le bruit des clés qui tournent dans les serrures. Les cris. Les hurlements des détenus. mais aussi la batterie dont on peut jouer en retournant une poubelle. Détourner des objets du quotidien des prisonniers pour en faire des instruments, on pourrait se dire que c'est seulement un bon storytelling pour vendre la série. En fait, c'est le fruit d'une véritable réflexion et même d'un engagement du créateur, Tom Fontana. Il veut montrer la violence qui règne derrière les barreaux, leur organisation en clan, mais aussi le rôle ambigu des surveillants pénitentiaires et au fond, l'échec du système carcéral. Et pour que la fiction soit la plus réaliste possible, le créateur de la série donne de sa personne. Pendant 2 ans, Tom Fontana visite des prisons américaines, rencontre des détenus. Et une chose le marque particulièrement lors de ses visites, c'est le bruit. Il est omniprésent. Ça devient alors une évidence. La musique, la bande-son de Oz, doit refléter cette atmosphère bruyante et oppressante. Dans le livre « Série, une addiction planétaire », le créateur se confie à ce sujet à l'autrice Charlotte Bloom. Il explique qu'il a rapidement balayé l'idée d'utiliser des musiques plus traditionnelles, comme c'est le cas dans les séries de l'époque, car pour lui, la musique c'est d'abord du bien-être, et le bien-être, ça n'existe pas en prison.
Viens ici, toi ! Allez, viens là ! Je t'ai vu ! Mets-toi à plat ventre ! Fous-toi à plat ventre !
Non ! Non ! Non, je ne veux pas ! Non !
Oz, c'est l'enfer pour purger sa peine.
Tom Fontana ne se limite pas à la bande-son. Le réalisme et le souci du détail qui ont fait le succès de Oz imprégneront toute la série. Le créateur a recruté des anciens prisonniers pour faire office de figurants, mais c'est dans le générique que le réalisme est poussé à son paroxysme. On voit un homme se faire tatouer le mot Oz sur le bras, c'est en gros plan, on ne voit pas son visage, mais on voit l'encre s'introduire dans la peau. On a presque mal pour lui. C'est une vraie scène, avec une vraie aiguille et la douleur qui va avec, et le tatoué n'a rien d'un inconnu. C'est Tom Fontana lui-même, il s'est fait graver dans la peau le nom de sa série.
Maintenant que vous avez envie de regarder cette série, on va quand même vous dire où vous pouvez la trouver.
Oz, ça s'écrit O-Z, c'est une série en 6 saisons, 56 épisodes, elle dure au total 2800 minutes et vous pouvez la retrouver en DVD.
Pour cette ultime saison, Marine Franco, vous évoquez le cas des mineurs isolés. Ce sont ces enfants marocains qui errent dans le quartier de Barbès. Parmi ces thèmes d'actualité, est-ce que, par exemple, vous avez envisagé à un moment donné de parler de la crise des gilets jaunes ?
Oui, bien sûr. En fait, avec les auteurs avec qui je travaille pour Les Arches, donc vraiment le tout premier travail sur la saison, toujours, on a fait 2 saisons ensemble, mais la démarche, c'est toujours de se dire qu'est-ce qui nous traverse en ce moment. Et parce que c'est vrai que le polar, on l'a dit, ça parle de la société, c'est cette chance-là qu'on saisit. Les gilets jaunes, la difficulté, c'est que ça ne concerne pas des policiers de police judiciaire, en fait. C'est vrai que c'est passionnant, les policiers qui ont eu à gérer cette crise-là sont les policiers des forces de l'ordre et Dieu sait qu'il y aurait à dire, mais ce n'était pas le champ d'engrenage. Voilà, moi, j'avais cette envie que le mort de la saison 8 soit un migrant qui n'aurait pas de papier, qui serait anonyme. Ça fait partie. Là, je n'avais même pas de réflexion. Quoi. C'était... Et puis, on a commencé à chercher autour de ça pour le raccrocher à quelque chose qui dépasserait un petit peu cette vision trop simple. Et on est tombé sur cette photo qui était parue dans le journal Le Monde, où on voyait 3 adolescents endormis dans les tambours d'un lavomatique, avec juste les jambes qui dépassent. Et en fait, quand on a vu cette image, on s'est dit « Ok, c'est ça, en fait. On va parler des mineurs isolés de Barbès ». Et cette image est d'ailleurs le teaser de la saison 8, en fait.
Ali ? Ça va ?
Pourquoi tu nous mens ? Hein ? Tu crois que t'as pas assez fait de dégâts comme ça avec tes mensonges ?
Pardon ?
Je suis en train de dire !
Stop ! Pourquoi nous mens ?
Quand vous dites « on », c'est vous et les auteurs qui travaillent avec vous.
Pour faire Les Arches, en fait, on est sur la saison 7, on était 4. Sur la saison 8, on était 3. Donc, je suis avec Sylvie Chanteux et Antonin Martin-Hilbert. Et moi. Et donc là, on fait ce premier travail qui est très important, qui dure plusieurs mois, de réfléchir à la fois à l'intime des personnages, qu'est-ce qu'on a envie qu'ils traversent dans cette saison, et à la fois la grande thématique de l'enquête, de quoi ça va parler.
Alors, on parlait de vos romans, Franck Tillez, et notamment de Pandémia, parce qu'évidemment, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, et avec ce souci de réalisme. Est-ce que parfois, vous vous faites peur ? Est-ce que parfois, vous arrivez en fait à précéder la réalité ou un fait de société ? Marine Francou, ça vous est déjà arrivé ?
Quand on a abordé ce thème des jeunes mineurs isolés, nous, dans Engrenage, ça démarre toujours par un mort. Donc, on a décidé que le mort serait donc un de ces adolescents. Et c'est vrai que ça nous a posé un peu question, parce qu'on s'est dit, quand même, là, on fait un pas avec un sujet qui est assez sensible. Et c'est vrai qu'on a rencontré des sociologues, des éducateurs qui sont confrontés à ce problème et essayent de trouver des solutions, ce qui n'est pas simple. Et ils nous ont dit que c'est ce qu'ils redoutent, en fait. Et que donc, on n'était pas loin. Oui, on fait un pas dans la fiction, on va un petit peu plus loin. Mais ils nous ont dit des bagarres avec des couteaux qui sortent et ces gamins qui sont parfois dans un sale état, au sens où ils peuvent être vraiment assez drogués avec les médicaments qu'ils prennent. Oui, ça pourrait arriver, donc on n'est pas si loin. Voilà, c'est ça les pas qu'on fait et qui nous font un peu peur, oui, parce que c'est un peu terrifiant. Et en même temps, c'est ça le polar aussi, ça nous permet d'expurger, quoi, de sortir de nous-mêmes des choses qui sont un peu difficiles.
Difficile et très noir. Hein,
oui, ça nous fait peur. En même temps, ça, quelque part, ça nous dit qu'on a bien fait notre travail de scénariste et de créateur d'histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas à côté de la plaque. On prend le monde d'aujourd'hui, on en imagine une histoire qui ne s'est pas encore produite. Et puis, finalement, elle arrive dans le vrai monde parce que c'est une possibilité. Et donc, il y a ce sentiment très, très ambivalent. De se dire, j'aurais préféré que ça n'arrive jamais à ce que j'ai écrit, mais en même temps, comme je décris le monde d'aujourd'hui, forcément, à un moment donné, ça peut se produire. Et c'est vrai que ça arrive assez souvent que la réalité rejoigne la fiction.
J'ai une dernière question, parce que vivre autant de temps avec vos personnages de flics, est-ce que d'abord, ça vous a fait changer de regard sur ce métier ? Et est-ce que vous auriez aimé être flic ? Marine Francou ?
Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup changé de regard, oui, oui. À tel point que là, la police a quand même vécu des mois très, très difficiles, dont on ne sait pas s'ils sont terminés, mais c'est vrai que la crise des Gilets jaunes et puis toutes les violences, le racisme, là, qui sont dénoncées, et parfois à juste titre. J'ai été d'une grande empathie, en fait, avec ce corps de la police et beaucoup à les défendre, en fait, et surtout à alerter les gens sur le fait qu'il y avait vraiment un danger, là, à se mettre à tirer tous à boulet rouge sur ce corps de manière complètement uniforme. Donc oui, j'ai considérablement changé de regard parce que je crois que je mesure... en discutant beaucoup avec les consultants, l'un d'eux m'a dit à propos des violences policières, il me dit, mais en fait, vous n'avez jamais connu ce que c'est que de courir après quelqu'un dans la rue en se disant, il faut que je l'arrête. Et oui, il y a de l'adrénaline et oui, il y a quelque chose de la virilité. Et je dis ça même si c'est une femme qui est engagée, une adrénaline. Et si l'autre résiste, oui, enfin, c'est violent. Et en fait, à un moment donné, cette espèce de bien-pensance un peu collective qui voudrait qu'on puisse arrêter les gens juste en leur disant « Non, alors s'il te plaît, tu t'arrêtes là, je te passe les menottes. » Enfin, voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à regarder un petit peu dans le fonctionnement de ce corps. Je ne suis pas en train de dire ça, mais c'est vrai que je me suis ouverte à des choses que je ne connaissais pas et sur lesquelles j'avais un peu tendance à avoir des jugements à l'emporte-pièce, quoi. Parce qu'on aimerait tous que ce ne soit pas violent, mais quand ils vous expliquent que la clé d'étranglement, ça peut nous choquer, mais c'est souvent la manière la moins violente de neutraliser quelqu'un. C'est intéressant à entendre. Et personne ne le dit, en fait.
Vous, Franck Tillez, est-ce que vous auriez aimé être flic ?
Ce sont des métiers qu'on découvre de l'intérieur quand on est scénariste et que quand on côtoie les policiers, on se rend compte de toute l'humanité qu'ils dégagent. Mmh. Et leur quotidien, c'est la violence, quand même, sous toutes ses formes. Hein. Ce n'est pas forcément de la violence physique, c'est un crime, c'est quelqu'un qui s'est fait frapper, qui vient porter plainte. Et ça, c'est en permanence. Donc, des gens qui ont des familles, qui ont des fragilités, qui sont toujours sur le fil du rasoir, mais qui essayent de faire leur métier au mieux avec toutes les contraintes qu'on leur impose. Et cette image, cette image très, très négative qui s'est dégagée d'eux dans notre société, ça leur fait mal, ça les touche parce qu'ils disent « mais nous on n'est pas comme ça, c'est pas ça la police, on est là pour vous défendre et pour résoudre des affaires terribles ». Donc Oui, ça, moi, je suis très empathique et j'aime beaucoup la police. C'est ce que on essaye de montrer, je pense, dans nos séries. Des personnages très, très humains et qui expliquent pourquoi ils font telles actions. Et quant au fait d'être policier, pas forcément, mais je pense qu'on a un métier un peu idéal parce que, grâce à nos métiers de scénariste, on peut aller flirter à droite, à gauche, à découvrir tout un tas de métiers qui sont absolument passionnants. Et moi, j'adore ça, donc ça fait aussi partie de... Bon, on vit plusieurs vies, en fait, donc ça, c'est génial.
C'est sur ce constat que notre discussion s'est achevée avec Fontiliez et Marine Francou, car il fallait bien qu'on s'arrête à un moment donné. Mais restez encore un peu, car on ne peut pas se quitter sans vous avoir donné envie de regarder une dernière série. Dans Série Londe, on ose tout. On a même décidé de créer notre propre algorithme pour vous conseiller les séries qui pourraient vous plaire en fonction de ce que vous avez déjà regardé. Toutes les plateformes le font, pourquoi s'en priver ? Sauf que nous, on joue la carte de l'humain. Oui, notre algorithme s'appelle Margot Barallon. Si vous avez aimé Engrenage, Margot a une autre proposition à vous faire.
Parce que vous êtes en manque et que vous ne savez plus trop quoi regarder, que vous estimez que rien ne surpassera jamais votre série préférée ou que selon vous, trop de choix tue le choix, Sériland vous conseille.
Eh bien, si vous avez aimé Engrenage, moi je vous conseille The Sinner. C'est une série américaine à voir sur Netflix et vous allez retrouver tout ce qui fait le sel de la série française, notamment le frisson qu'on vient évidemment toujours chercher avec une intrigue policière. Alors il y a quand même une différence notable, c'est que dans The Sinner, vous savez dès le début qui est coupable. Je ne vous spoile rien, dans la première saison, une femme, Cora Tanetti, va poignarder un homme en plein jour, sur une plage, devant des dizaines de témoins, apparemment sans raison.
Quelle était votre relation avec Frankie Belmont ?
Je le connaissais pas.
Vous n'avez jamais eu de contact avec lui avant aujourd'hui ?
Non. C'était la première fois de ma vie que je le voyais.
Vous vous attendiez à le voir sur la plage ?
Non. Je le connaissais pas. Je vous l'ai dit, je l'avais encore jamais vu de ma vie.
Alors, pourquoi l'avoir tué ?
Voilà, contrairement à Engrenage, l'enjeu là n'est donc pas de trouver qui a tué, mais pourquoi. Et pour ça, un détective va être appelé à la rescousse, Harry Ambrose, un âge proche de la retraite, et beaucoup, beaucoup d'opiniâtreté.
Je ne vais pas arrêter de creuser. Vous n'êtes atteint d'aucune maladie mentale. Et quand on est sain d'esprit, il y a un mobile derrière nos actions, qu'on en cache la raison ou non. Et je vais continuer à venir vous voir ici chaque jour, tant que je n'aurai pas entendu une justification qui ait un sens. Il y a forcément quelqu'un quelque part qui est au courant de quelque chose.
Son personnage est d'ailleurs vraiment intéressant. On est loin du super flic, c'est un homme un peu hors du monde, misanthrope, décalé. On comprend assez rapidement qu'il a des problèmes conjugaux, qu'il a lui aussi un passé trouble. Et finalement, même si les personnages sont très différents, vous avez le même mécanisme d'intrigue qui se superpose dans Engrenage et dans The Sinner. D'un côté, l'enquête, et de l'autre, les histoires du capitaine Berthaud ou du détective Harry Ambrose.
Le fait est que la plupart des gens ont des secrets, même ceux qu'on soupçonne le moins.
Moi, j'aime bien avoir plus qu'une histoire policière. J'aime que la série soit aussi une peinture de la société. C'est le cas avec Engrenage et ça l'est encore avec The Sinner. Il y a là aussi une vraie réflexion sur l'origine de la violence, violence intrafamiliale, sexuelle, psychologique. On navigue entre l'intrigue criminelle classique, le drame intime et la critique assez fine d'une société qui ne sait pas gérer toutes ces violences. Maintenant, ma dernière carte, si je n'ai pas encore réussi à vous convaincre. Il y a deux saisons sorties en France. Dans la première, c'est Jessica Biel qui tient le rôle de Cora Tanetti. Je la voyais encore comme l'actrice de blockbuster, un peu de seconde zone. Eh bien, elle m'a vraiment surprise. Elle est incroyable. Dans la deuxième saison, on retrouve Carrie Coon. Elle, c'est une comédienne que j'adore, vue dans une autre grande série, The Leftovers. Et puis notre fameux Harry Ambrose est incarné par Bill Pullman, lui aussi abonné au second rôle au cinéma. Eh bien, The Sinner prouve qu'il est également taillé pour les premiers.
C'était Margot Barallon. Agent conseil de Sériland.
Merci infiniment Marine Francou et Fontiliez d'être venus nous dresser le portrait robot du flic dans les séries françaises et d'avoir été notre marraine et notre parrain, les premiers invités de Sériland. Pour vous qui nous écoutez, je vous rappelle qu'Engrenage est à voir et revoir sur Canal+ et sur MyCanal. Alex Hugo sert sur France 2 et sur France.tv. Vous pouvez également plonger dans l'univers de Fontiliez grâce à ses romans et ses BD. Le tome 4 de La Brigade des Cauchemars, une bande dessinée pour ados, sort dans quelques jours aux éditions Jungle. Et l'adaptation en BD du roman Syndrome E est attendue en octobre. Pour terminer, j'avais envie de partager avec vous mon goût pour les répliques, ces bons mots prononcés par nos héros de série.
Cette semaine, c'est le médecin le plus cynique, mais aussi le plus sympathique, qui conclut ce podcast, Dr House. Je suis assez intelligent pour savoir ce que j'ignore. Dans le prochain épisode de Sériland, vous allez avoir la chance de pénétrer dans les coulisses d'Engrenage grâce à un grand entretien avec Marine Francou pour tout savoir sur la série policière et ses secrets de fabrication. Sériland est un podcast d'Europe 1 Studio produit par ma fée Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et Xavier Joly, concocté en coulisses et en plateau par Clémence Olivier et Margot Barallon, que je remercie. Si ce premier épisode vous a plu, écoutez le suivant qui arrive très vite, mais surtout parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, de vos séries préférées, partagez avec nous votre enthousiasme. Attention, dans Sériland, il y a une règle, pas de spoil, et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.